J'ai une bonne question pour vous. De quelle manière est-ce que la grâce et la vérité sont venues sur la terre? La parole de Dieu va répondre à cette question aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, la Bible va répondre à des questions très profondes selon moi. Est-ce que ces questions seraient aussi les vôtres? Par exemple, quel est le but d'un jeûne? D'où viennent la grâce et la vérité? Pourquoi est-ce que Jésus a demandé à certaines personnes qu'il avait guéri de ne pas ébruiter l'affaire? Y a-t-il des personnes qui ont le don de guérison aujourd'hui? À quoi ont servi les miracles que Dieu a faits par ses apôtres? Demeurez à l'écoute. Nous allons entendre ce que le pasteur Réjean Joly a trouvé dans la parole de Dieu en réponse à toutes ces questions. Mais premièrement, demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre l'enseignement de sa parole. Prions. Mon Dieu, on vient à toi encore aujourd'hui, confiant que tu désires nous enseigner, que tu désires nous faire du bien par ta parole. Parle, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du 9e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Nous étions rendus au verset 14. Le revoici, ce verset. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Comme je l'ai déjà mentionné, Jean était un prophète de l'Ancien Testament qui apparaît dans le Nouveau Testament afin d'annoncer la venue du Messie. Le prophète Malachie avait prédit qu'un messager viendrait aplanir les sentiers du Seigneur Jésus-Christ. Jean a dit, « Je prépare la route pour le Seigneur. Il sera là dans quelques instants. » Jésus est venu tel que prédit par Jean-Baptiste. Maintenant, notre Seigneur va révéler que nous entrons dans une nouvelle dispensation. Verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Même si le jeûne a une signification pour les croyants aujourd'hui, Jésus-Christ ne nous a pas commandé de jeûner. Lorsque nous jeûnons, nous devrions penser que nous nous prosternons devant Dieu, parce que nous avons besoin de sa miséricorde et de son aide. C'est le but d'un jeûne. Voyons ce que le Seigneur dit lorsqu'il explique le changement de dispensation alors que le monde va passer de la loi de l'Ancien Testament à la grâce du Nouveau Testament. Versets suivants, versets 16 et 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. En fait, le Seigneur enseigne que l'ancienne alliance, la dispensation de la loi, se termine, et qu'il ne la renouvellera pas dans la nouvelle dispensation. En fait, il nous apporte un nouveau vêtement. Ce vêtement est un manteau de justice qu'il donne à tous ceux qui font simplement croire et mettre leur confiance en lui seul. Lorsqu'un vin nouveau est mis dans une outre, il se dilate et son volume augmente. Les outres s'étirent au maximum. Si l'on met du vin nouveau dans une vieille outre, elle ne peut résister au vin nouveau, et elle se déchire. Alors, le vin nouveau est perdu. Jésus dit qu'il n'est pas venu rapiécer un vieux vêtement avec de nouveaux tissus. Il est plutôt venu apporter un nouveau vêtement, quelque chose d'entièrement nouveau. C'est un changement radical. L'apôtre Jean l'a résumé ainsi dans son évangile. Jean chapitre 1, verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Nous passons au 8e et au 9e miracle. Ils sont reliés, car un fut fait alors que Jésus était en route pour faire l'autre. Nous voyons une scène émouvante alors que Jésus fait deux guérisons. Verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » L'évangéliste Luc nous raconte aussi cet incident, mais il précise que lorsque le chef vint à Jésus, c'était pour obtenir la guérison de sa fille qui vivait encore. Luc, chapitre 8, versets 41 et 42. Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Chers amis, la maladie était grave, et pendant que le père attendait pour parler à Jésus, un serviteur vint lui annoncer le décès de sa fille. Verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Alors que Jésus se leva pour aller chez Jaïrus, une foule se rassembla et suivit le cortège. Verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Notez un détail intéressant. La jeune fille avait 12 ans et la femme souffrait de perte de sang depuis 12 ans. 12 ans de lumière s'éteignaient chez la jeune fille et 12 ans de ténèbres arrivaient à leur fin chez la femme alors que la lumière y pénétrait. Nous voyons ici tout un contraste. Remarquez un autre détail. Ce n'est pas Jésus qui a touché la femme comme dans le cas des autres miracles. C'est la femme qui touche Jésus. Ce n'est pas la technique ou la méthode qui a apporté la guérison, mais la foi de cette dame. Versets 21 et 22. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dans son évangile, Luc donne des détails supplémentaires au sujet de cet incident. Luc nous relate la réaction de Jésus ainsi que la réponse de la femme. Jésus poursuivit son chemin vers la maison de Jaïrus. Versets 23 et 24. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Lorsque Jésus arriva chez Jaïrus, le deuil était commencé et les pleureurs professionnels étaient déjà à l'œuvre. Ils rirent de Jésus lorsqu'il affirma que la jeune fille n'était pas morte, mais qu'elle dormait. Personne ne croyait que Jésus pouvait ressusciter un mort. Cependant, Jésus se rendit au chevet de la fille. Verset 25. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. C'est la première résurrection qui est enregistrée dans les évangiles qui en rapporte 3. Encore une fois, chers amis, Luc est plus avare de détails que Matthieu. Luc ajoute qu'il a parlé avec tendresse à la jeune fille. « Enfant, lève-toi. » Luc chapitre 8, verset 54. Chaque fois que Jésus a ressuscité un mort, il s'est adressé directement à la personne. Après la guérison de la femme et la résurrection de la jeune fille, Jésus fut encore plus célèbre. Verset 26. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Le 10e miracle fut la guérison de 2 aveugles qui suivaient Jésus. Verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Notez que les deux hommes ont appelé Jésus « fils de David ». Cela mérite d'être noté dans un évangile qui présente Jésus-Christ comme étant le roi. Versets 28 à 30. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»«
Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils.
Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Voilà un autre miracle des plus merveilleux. Et encore une fois, Jésus demande aux personnes guéries de ne pas ébruiter l'affaire. Il avait aussi demandé aux lépreux de ne rien dire. Jésus demandait cela pour plusieurs raisons. Mais nous en voyons une dans ce passage. La célébrité croissante de Jésus attirait une foule importante, et cela était une entrave au ministère de Jésus. Verset 31. Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Les deux aveugles guéris par Jésus ne pouvaient pas contenir leur joie. Ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Nous sommes rendus au 11e miracle, un autre cas de possession démoniaque. C'est le 3e cas de possession démoniaque rapporté dans les chapitres 8 et 9 de l'Évangile selon Matthieu. Versets 32 et 33. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël !» Notez la réaction des pharisiens, verset 34. « Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons !» Les pharisiens ne pouvaient pas nier que Jésus avait guéri des aveugles, des muets et des infirmes. Cependant, ils l'ont accusé de faire cela avec la puissance de Satan. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. La bonne nouvelle du royaume n'est pas la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il y a deux évangiles. Il y a un seul évangile, mais cet évangile comprend plusieurs aspects ou plusieurs éléments. La bonne nouvelle du royaume était l'annonce du fait que le royaume des cieux était proche. Cette nouvelle invitait les gens à se préparer à recevoir leur roi par la repentance et la foi. Elle demandait aux gens d'avoir un cœur disposé à suivre leur roi, qui s'en allait alors vers la croix. Guérissant toute maladie et toute infirmité, de nouveau, Matthieu attire notre attention sur le fait que des milliers de personnes furent guéries. C'est pourquoi les ennemis de Jésus n'ont jamais mis en doute ces miracles. Ceci était très évident. De nos jours, de nombreuses personnes s'emballent devant des personnes qui affirment avoir le don de guérir. La Bible nous dit que ces choses sont possibles. Mais que d'après l'expérience vécue par M. McGee lui-même, l'auteur de nos textes, cela n'en fait surtout pas une chose habituelle. Voici son histoire. Il a déjà offert $100 à quiconque pourrait prouver qu'il a été guéri par une personne ayant un don charismatique. Nous aurions cru qu'au moins un véritable cas se serait présenté parmi tous ceux qui affirment avoir été guéris lors d'une réunion. Monsieur McGee pensait qu'au moins une personne qui aurait obtenu une guérison psychologique se présenterait, mais personne n'est venu à sa demande. J. Vernon McGee s'était aussi renseigné auprès d'un autre pasteur qui en avait fait autant que lui, mais qui avait offert une récompense de $1,000 à toute personne qui pouvait prouver sa guérison miraculeuse par l'intermédiaire d'un guérisseur ayant un don. Certains l'ont poursuivi en justice pour réclamer le $1,000, mais personne n'a gagné sa cause, car personne n'a pu établir sa guérison. Par contre, des milliers de personnes furent guéries par Jésus alors qu'il a exercé son ministère public. Nous croirions que l'on pourrait trouver une personne qui fut guérie aujourd'hui. Qui d'entre vous peut sincèrement dire qu'il connaît quelqu'un qui fut aidé par un guérisseur? C'est le Seigneur Jésus qui est notre médecin divin. Il est aussi capable de guérir aujourd'hui qu'il l'était au temps de son ministère sur terre. Donc, allons plutôt vers lui. J'ai entièrement confiance en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais préciser une chose. Nous devrions toujours essayer d'obtenir les meilleurs services médicaux possibles, mais nous devons reconnaître qu'il y a une limite à l'expertise des médecins. Jésus-Christ, par contre, est omniscient, il sait tout, il est omnipotent, il peut tout. Christ agit envers nous selon sa volonté parfaite, et nous devons lui donner la gloire pour tout ce qui nous arrive. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ce chapitre se termine sur une note de compassion saisissante. Les chefs choisis par Dieu furent des bergers. Moïse et David furent des bergers avant de devenir des chefs du peuple de Dieu. Priez afin que le Seigneur nous envoie des ouvriers qui ont un cœur de berger. Priez afin d'avoir un cœur compatissant pour les âmes perdues. Versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Après avoir enseigné cela, il envoie ses disciples en mission. « Mes amis, si vous priez pour une chose, soyez disposés à vous voir confier la tâche. » Jésus a demandé à ses disciples de prier pour des ouvriers, et ensuite, il les a envoyés en mission. Nous débutons maintenant le 10e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. La progression dans la pensée de l'apôtre se poursuit toujours. Jésus a donné la loi de son royaume, il a manifesté sa puissance pour l'accomplir, maintenant il envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle du royaume. Ce ne sont pas des précurseurs comme Jean-Baptiste. Jésus leur donne le pouvoir de faire des miracles. Cela prouvait qu'ils parlaient au nom de Dieu. Par contre, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Notez que pour la première fois, le titre d'apôtre, qui signifie « délégué », est utilisé à la place de « disciple ». Un certain nombre de sectes utilisent ce passage pour justifier l'autorité qu'ils se donnent ainsi que leur conduite. Les instructions de ce chapitre furent données dans des circonstances particulières à un groupe spécifique, pas aux chrétiens en général. Nous devons tenir compte de cela dans notre interprétation du texte. Débutons, chers amis, notre lecture du 10e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puisque les disciples ont reçu le pouvoir de faire des miracles, ils sont maintenant des apôtres. Ils sont envoyés vers la nation d'Israël et les miracles prouvent qu'ils ont reçu leur autorité du Messie même. Versets 2 à 6. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Si vous puisez les directives pour votre ministère personnel dans ce chapitre, comme plusieurs pasteurs le font, il faudra vous restreindre aux brebis perdues d'Israël. Et si nous n'avons pas la mission que Christ a confiée à son Église, dans Actes chapitre 1 verset 8, nous l'avons cette mission confiée à l'Église. Nous lisons, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les apôtres, eux, devaient s'en tenir aux brebis perdues d'Israël. Dans ce chapitre, alors que la mission de l'Église couvre la terre entière. Voici le message que devaient livrer les apôtres. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche en la personne de Christ, son roi. Le royaume des cieux est en nous alors que nous recevons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Christ comme sauveur personnel. Nous n'avons pas à bâtir un royaume sur terre. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement. Je pense que si vous affirmez être en mesure de faire un des éléments de ce verset, vous devriez être capable de tous les faire, y compris ressusciter les morts. De toute évidence, ce verset ne s'applique qu'aux apôtres pour cette mission bien précise, adressée au peuple d'Israël. Si quelqu'un ressuscite les morts, j'aimerais rencontrer cette personne. En connaissez-vous une? En fait, je vous recommande fortement de vous tourner vers notre médecin divin, le seul, l'unique qui a le plein pouvoir de guérir l'âme, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le miracle des miracles. Il nous est rapporté, mentionné par l'apôtre Pierre lui-même, dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 22 à 25, et je lis, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Ce que toute âme a besoin de vivre, c'est de vivre sous la protection divine, dans la présence du bon berger. Faites-lui confiance, allez vers ce Jésus, implorant sa miséricorde, obtenant le pardon de vos péchés, et par le fait même de vivre sous sa garde. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant et méditant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 9, jusqu'à l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 6.
Merci, Régent. Je crois réellement que Dieu sait choisir qui il utilise pour nous enseigner sa parole. Aujourd'hui, Régent nous a enseigné des choses très profondes. Es-tu d'accord avec ça? J'aimerais retourner à ce qu'on a appris concernant la grâce et la vérité. Régent a dit que le Seigneur donne un manteau de justice à tous ceux qui croient en lui, qui mettent toute leur confiance en Dieu seul. Il a cité l'Évangile de Jean au premier chapitre, verset 17, où il est écrit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Oh, combien je serais perdu sans la grâce qui est venue par Jésus. J'ai regardé dans mon dictionnaire Robert pour voir la définition du mot « grâce » du point de vue théologique. Et ça dit qu'une grâce est un don surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. Et je sais qu'une grâce, c'est quelque chose qui nous est donné, qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau. Quel beau cadeau que la grâce de Dieu. L'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Y a-t-il une plus belle grâce que ça? Un plus beau cadeau? Maintenant, pour ce qui est de la vérité, ça me rappelle que toute ma vie, moi, j'ai cherché l'amour et la vérité. Et je cherchais pas tout à fait aux bons endroits pendant bien, bien longtemps. Et quand j'ai découvert l'amour de Dieu, j'ai aussi découvert qu'il était le seul à offrir la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Il est mon sauveur. Quelle grâce! Est-ce que tu cherches la vérité? Es-tu déçu par les gens autour de toi qui semblent vivre dans le mensonge, qui font des promesses qui tiennent pas, qui disent des choses qu'ils pensent pas, et puis tu t'en aperçois un peu plus tard, puis t'es déçu? Mais Jésus est la vérité. Imagine, la vérité est partie du ciel, elle est descendue sur la terre. Pour toi, pour moi. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus, à travers moi en ce moment, qui t'invite à la vérité. Qui t'invite à emprunter le vrai chemin. Et c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. T'aimerais pas ça avoir la vie éternelle? Les gens cherchent toutes sortes de moyens de vivre, de prolonger leur vie. Et ils pourraient la prolonger jusque dans l'éternité s'ils le voulaient. Si tu le voulais, tu pourrais prolonger ta vie jusque dans l'éternité. Jésus t'offre cette vie aujourd'hui. Il est mort sur la croix pour toi, pour payer pour tes péchés. Mais il est ressuscité, il est vivant, puis il t'offre la vie aujourd'hui. Saisis cette opportunité qu'il te donne en ce moment. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Aie confiance qu'il y a juste son sacrifice à la croix qui pouvait payer pour t'offrir le chemin du ciel, pour t'offrir la vérité, pour t'offrir la vie. Prends cette vie éternelle. Jésus te l'offre en ce moment. Il frappe à la porte de ton cœur. Demande-lui de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle.
Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle bague d'aventure dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi. Et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel, animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis! Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand-Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.